Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, peut-on faire des infidélités à la loi ? Ils sont fatigués. Les députés n'en peuvent plus, dit-on, de toutes ces lois rédigées à débattre. Un an après le début de la 15e législature, le constat semble assez largement partagé. Le quinquennat n'a pas rompu avec la pratique observée chez ses prédécesseurs, à savoir celle de l'inflation législative. Les lois sont nombreuses, elles sont aussi épaisses, donc complexes, donc susceptibles d'être contournées, étant entendu que le diable se niche toujours dans les détails. Et c'est pour contourner cette complexité que le programme France Expérimentation a vu le jour en 2016, avant d'être relancé le mois dernier. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien de permettre à certains projets de déroger temporairement à la loi, si celle-ci entrave leur développement. Vous avez un projet innovant, peut-on lire sur le site du gouvernement, mais vous êtes bloqué par un texte législatif ou réglementaire. Participer au programme France Expérimentation. L'objectif est de favoriser l'innovation, de tester de nouveaux dispositifs afin, le cas échéant, de les généraliser. Mais cette approche entretient aussi l'idée que la loi est un obstacle avant d'être une protection, qu'elle bloque plus qu'elle ne libère. Alors peut-on faire des infidélités à la loi ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Axelle Tessandier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes entrepreneur.
Voilà.
Fondatrice de l'agence Axelle Agency, qui est une agence de réflexion sur la révolution numérique. Pour ceux qui se souviennent de votre nom, je rappelle que vous avez été, mais il faut en parler au passé, déléguée nationale d'En Marche. Ce soir, ce n'est pas du tout au titre cette formation politique que vous intervenez. Pour discuter avec vous, Denis Salas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Vous dirigez directeur scientifique de la revue Les Cahiers de la Justice et vous avez publié récemment chez Des Clés de Brouwer La foule innocente à propos de l'expérience par rapport aux attentats terroristes. Et puis notre troisième invité est en duplex à Rennes depuis les studios de France Bleu Armorique. Il s'agit de Josepha Dieringer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, maître de conférence à l'université Rennes 1, spécialiste du droit du travail. Vous avez fait partie de ce groupe de recherche pour un autre droit du travail qui a publié, il y a quelques mois de cela, justement, un nouveau code allégé, simplifié et protecteur. Alors, je voudrais qu'on commence cette discussion donc avec ce dispositif France Expérimentation, mis en place en 2016 à l'époque par le ministre de l'économie et des finances qui s'appelait Emmanuel Macron. Il s'agissait avant tout de déroger au règlement. Ça a été un petit peu musclé dernièrement, début mai, avec l'idée de pouvoir accorder des dérogations temporaires à la loi pour mener certains projets innovants. Sur le principe, les uns et les autres, ce sera ma première question et premier tour de table. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre, Axelle Tessandier ?
Si ça permet effectivement l'expérimentation, ça permet effectivement l'innovation, ça va généralement ensemble. Ça fait toujours mal au cœur de voir des start-up, des entrepreneurs partir parce que d'un coup il y a une législation un tout petit peu plus favorable de l'autre côté des Alpes, par exemple. C'est le cas de C-Bubble qui a dû partir en Suisse.
Alors C-Bubble, je rappelle, c'est une compagnie, enfin, je ne sais pas si on peut parler de compagnie aujourd'hui, en tout cas ce sont des taxis qui vont sur l'eau, qui devaient être testés à Paris. Son fondateur est parti en Suisse. Il est revenu, il a retenté l'expérience quand même il y a quelques jours à Paris.
Oui, parce que je pense que ça fait mal au cœur à tout le monde, parce que ça c'est des opportunités économiques en fait. C'est pas seulement pour faire plaisir à l'entrepreneur et à ses cinq collaborateurs. Il y a une nouvelle opportunité, en plus un déplacement écologique, etc. Donc voilà, dans ce cadre-là, effectivement, moi je trouve ça... Comme vous le dites, là, il y a une nouvelle mouture depuis mai 2018, qui est encore assez encadrée quand même, dans le temps. Je pense que c'est un souci de plus de simplification par rapport à 2016. Sur le principe, si la loi avance moins vite que la société parfois, je trouve que ça peut être pas mal. Je dois faire bondir le juriste en face de moi, mais...
Et ben on va voir tout de suite s'il bondit, Denis Salas.
Je vais pas bondir, mais je vais réagir en tout cas. Non, je pense que ce qui me gêne, je pense qu'il peut avoir des avantages pratiques, incontestables, à ce type d'expérimentation. Ce qui me gêne plus, c'est l'idéologie qui est derrière ça. C'est une manière de penser le droit comme un coût, quelque chose qui est une gêne par rapport à l'entreprise et qui empêche son développement naturel. Si on pense effectivement la législation, le droit, tout ce qui va avec, comme étant effectivement dans une vision économique des choses, comme un empêcheur de fonctionner en quelque sorte naturellement, eh bien oui, on peut là avoir une critique assez sévère parce que le droit n'a pas vocation à empêcher. Comme vous le disiez au début dans votre introduction, il y a aussi une vocation question de protection des salariés, de bon fonctionnement de l'entreprise.
Oui, mais prenons par exemple l'exemple qu'évoquait Axel Tessandier sur ce cas des taxis électriques sur l'eau. Donc son concepteur se plaignait de la réglementation trop stricte par rapport à la vitesse de ces embarcations. La limitation de la vitesse sur l'eau, c'est 18 km/h. Alors lui, il explique que ça peut aller beaucoup plus vite ces bateaux et que cette réglementation, elle était faite pour éviter que les bateaux ne fassent trop de vagues et endommagent les berges. Mais il dit, par rapport à nos embarcations, nous, ça, c'est totalement obsolète parce que ça fait pratiquement pas de vagues. Est-ce que dans un cas comme celui-là, déroger à la loi ou à la réglementation, ça peut être envisagé pour vous?
À la réglementation, vous l'avez dit, c'est pas... Moi, je suis juriste, donc je mets des niveaux différents entre le règlement et la loi et la Constitution. Mais là, au contraire, je pense qu'effectivement, déroger à cette réglementation étroite et tatillonne peut permettre effectivement de libérer une énergie et peut permettre aussi d'annoncer une réglementation future plus adaptée aux besoins de cet entrepreneur.
Ouais, c'est peut-être une nuance, c'est un terrain aussi qui peut vous rejoindre les uns et les autres, c'est-à-dire tout dépend à quoi va servir cette dérogation. Est-ce que c'est une dérogation qui va être permanente ou bien est-ce que c'est une dérogation qui a vocation à être généralisée par la suite? Quel est votre point de vue sur le sujet, Josepha Dieringer?
Oui, bonjour. Je confirmerai un petit peu la première analyse, effectivement, que ce recours à l'expérimentation effectivement s'appuie sur une certaine représentation du droit et de la loi où on recherche l'efficacité économique du droit et où finalement on méconnaît cette idée qu'il faut et il convient qu'elle soit aussi effective, ce qui suppose de garantir un droit à l'accès au juge, de maintenir des sanctions et aussi une certaine stabilité et de la législation. À partir du moment où on voit le droit et la loi comme effectivement un coût et comme un empêcheur de tourner en rond, on la voit comme un risque qu'il convient de limiter, qu'il va falloir du coup modifier la loi autant de fois que les acteurs le jugeront nécessaire, et donc de l'adapter aussi à toutes les petites particularités, à tous les petits desiderata des uns et des autres, ce qui ouvre donc à l'expérimentation, mais aussi à la multiplication des dérogations. Et donc, en réalité, ceux qui... Alors, en fait, on redécouvre la Lune, la loi expérimentale, c'est une vieille technique, on a toujours pensé qu'il fallait effectivement avoir une certaine adaptation, mais là il me semble qu'on change un petit peu de paradigme. Et votre titre d'émission, c'était peut-on faire des infidélités à la loi? Et la question qu'il faut se poser, c'est qui sont les cocus? Pour parler tout à fait.
J'avais pas pensé à cette question, mais effectivement, elle est intéressante, Josepha Dieringer. Il faut préciser d'ailleurs peut-être que cette possibilité de déroger à la loi, elle n'apparaît pas uniquement à travers ce programme. C'est inscrit dans la Constitution depuis la révision de 2003, article 37.1. La loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée limitée des dispositions à caractère expérimental. Je vous voyais réagir, Axel Tessandier, en hochant de la tête,
mais
il n'avait pas l'air tout à fait d'accord.
Que mon argument était purement un argument d'efficacité économique, mais c'est pas vrai. Enfin, je pense aussi qu'il y a des enjeux parfois sur des enjeux sociétaux. Je fais une aparté, mais en ce moment il y a un article. Vous savez, il y a la directive droit d'auteur en Europe, notamment l'article 13 qui pose a priori que en fait votre vidéo sera retirée de YouTube si vous utilisez une musique d'un musicien, etc. Et qui fait la loi? Parfois je me demande, c'est-à-dire est-ce que ce sont des gens qui vont voter cette directive européenne, qui ont passé 5 heures par semaine sur YouTube à écouter de la musique? Parfois j'ai l'impression qu'on confond rigidité et stabilité sur la loi, et aussi qui l'a fait, parce que il y a une volonté aussi de terrain. Parfois quand je regarde cet article 13, je me dis ce sont des gens qui ne passent pas comme moi des heures à explorer sur internet de la musique, des nouveaux artistes. Et donc parfois il y a aussi, je pense pour le juriste, cette volonté de savoir la société dans laquelle il vit et de quoi il parle aussi parfois, mais là je parlerai plus du législateur, c'est-à-dire les députés, etc.
Je ne sais pas si vous le saviez, Axel Tessandier, mais il se trouve qu'après-demain, donc jeudi, on va consacrer notre émission justement à cet article 13 sur les droits d'auteur. Voilà, on se souviendra que vous l'avez déjà un petit peu annoncé, Denis Salaston. Oui. C'est vrai, c'est intéressant, c'est-à-dire ça pose la question de qui fait la loi et est-ce que avoir un retour d'expérience des acteurs de terrain pour la construire, ce que peut permettre ces systèmes dérogatoires, est-ce que ce n'est pas aussi intéressant plutôt que d'avoir d'avoir une loi qui serait seulement aux mains des législateurs.
C'est le signe de la fragilité de la loi telle qu'on en a hérité depuis le XIIe siècle, depuis l'époque de Portalis. La loi n'est plus gravée dans le marbre aujourd'hui. Elle est profondément travaillée par les forces sociales et donc soumise à des modifications. Moi, je trouve un exemple très intéressant, c'est les lois de bioéthique qui sont dans un autre champ, qui sont construites pour une expérimentation précisément, pour effectivement tester la capacité de la société à digérer, à absorber ces réformes qui touchent la filiation, qui touchent la parenté, qui touchent les règles de vie les plus profondes. Donc en quelque sorte, la loi est utilisée aujourd'hui comme un test de réalisation d'un projet de société pour un temps donné et en attente d'un effet retour de la société qui va adhérer à cet effort de transformation et qui va ensuite permettre une transformation plus profonde. Donc c'est une dialectique entre le législateur et la société à travers une expérimentation comme celle-là, mais il y en a sûrement d'autres, qui fait qu'effectivement, dans cette dialectique, naît la loi, d'une nouvelle loi en quelque sorte.
Si au bout
ce que les Américains appelaient la Sunset Law, c'est la loi du coucher du soleil, parce que ces lois vivent que le temps d'une journée et s'arrêtent de vivre à la fin.
Si au bout du compte, Josepha Dieringer, l'expérimentation permet de servir l'intérêt général mieux que ça n'aurait pu l'être si ça avait été une loi, disons, qui avait été rédigée et imaginée de manière un petit peu hors sol, est-ce que ça ne vaut pas le coup de le tenter ?
Mais là encore, on, finalement, derrière cette idée là de co-construction qui est avancée dans le projet Pacte, ou bon, on réinvente la lune, l'idée de faire participer les destinataires de la norme alors à son élaboration, si vous voulez, c'est une vieille revendication notamment du mouvement syndical. Et donc je repose la question de savoir à qui profite un petit peu le crime. On invoque que c'est la société, ça peut être l'entreprise, mais qui se cache en réalité de l'entreprise ? L'entreprise, ce n'est pas une personne. La PME n'existe pas. Donc parle-t-on de l'employeur, du chef d'entreprise, et parle-t-on des salariés ? Parle-t-on des représentants des salariés, peut-être des salariés ? Tout ceci, en réalité, on le cache derrière le terme d'intérêt, derrière des institutions dont on ne précise pas exactement qui sont les destinataires et qui peuvent potentiellement avoir des intérêts divergents. Hein, quand on parle des seuils qui seraient une contrainte en réalité pour les entreprises, il convient tout de suite de dire qu'en réalité c'est une contrainte pour les employeurs, parce que pour certaines c'est bien sûr des règles d'ordre public social qui visent à protéger le droit des salariés, notamment en matière de représentation, de matière de licenciement, en matière de formation professionnelle, etc.
Est-ce que donc, ça veut dire que vous voyez, pour vous, Josepha Dieringer, à travers ces expérimentations et ces dérogations, ça n'est pas a priori l'intérêt général qui va être poursuivi dans la perspective d'une généralisation de ces modifications, mais plutôt des intérêts particuliers qu'on va essayer de faire passer dans la loi de cette manière-là ?
Il convient toujours, pour que le législateur puisse autoriser des expérimentations, qu'il puisse avoir une juste raison. Et ça sera le motif d'intérêt général. Et donc, là, les projets dans France Expérimentation, pour ceux qui seront sélectionnés, doivent tendre vers plus de justice sociale, plus de justice environnementale, être dans le cadre de la santé publique, etc. Mais si on prend certains projets qui ont pu être sélectionnés comme Biodégrade, où il s'agit peut-être vous en avez entendu parler, de faire de la pub, publicité sur le domaine public. Bon. En réalité, ça c'est déjà autorisé pour les personnes qui ne poursuivent pas un but lucratif. L'objet de demander une dérogation à titre expérimental, c'est de permettre en réalité de faire de la publicité dans un but lucratif. Et donc de remarchandiser pour servir des intérêts particuliers, de marchandiser le domaine public. Bon. Et pareil, pour parler des PME, il faut prendre un autre projet là que j'ai vu et dont le gouvernement fait la pub, de recycler les boues domestiques dans une logique agricole. Bon, en réalité, la PME est une filiale de Veolia. Alors, c'est vraiment une PME. Oui, juridiquement, c'est une PME. Mais est-ce qu'on peut dire que Veolia est vraiment est-ce qu'on est bien sur une loi qui répond aux attentes des PME ?
Alors justement, je voulais faire réagir sur cette question et Axel Tessandier et Denis Salas. Peut-être, effectivement, sur la nature à la fois de l'expérimentation et sur l'identité de l'expérimentateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut réserver ce droit de déroger à la loi à certains projets uniquement ?
Je pense qu'il y a une vraie question. Parce que vous voyez, quand on demande, peut-on faire des infidélités à la loi ? La vraie question, c'est qui est derrière la loi? On sent que c'est une obsession. D'ailleurs, vous parliez d'une dynamique entre la société civile et le législateur. Moi, je suis tout à fait fascinée des infidélités auxquelles tout le monde était tenté sur les vaccins, par exemple. D'un coup, on faisait plus confiance à la loi parce que derrière la loi, c'était des intérêts qui n'étaient pas forcément l'intérêt général, mais les lobbies, le complot, etc. Et là, d'un coup, c'est pas une PME, c'est pas une TPE, c'est Veolia, donc c'est d'autres intérêts. Vous voyez, c'est cette espèce de suspicion qui est immense, et c'est ça qui fait beaucoup de mal à la loi, moi je pense. Et donc il n'y a pas seulement la tentation de l'infidélité à la loi pour l'innovation, pour l'exploitation, mais même le citoyen, tout d'un coup, quand il se demande, mais cette loi, qui est le cocu, comme on disait, ou au nom de quoi, au nom de qui? Alors tout d'un coup, quand c'est un petit si-bubble, on dit rien, parce que finalement, il n'y a pas de monopole, on ne se dit pas qu'il y a de grands intérêts derrière, c'est une petite équipe de 5 personnes qui a envie de faire des choses.
Mais tout d'un coup, quand l'intérêt général n'est rien d'autre que la conciliation d'intérêts.
Oui, mais l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Absolument. Donc ce que je veux dire, c'est que pour les infidélités à la loi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours la question, mais la loi au nom de qui et pourquoi? Et là, d'un coup, on y arrive. Sur l'expérimentation, on est passé de est-ce que ça défend l'innovation? Mais attention, l'innovation pour qui? C'est pas une petite TPE ou PME qui est derrière, c'est Veolia. Et je crois que ça nourrit aussi la défiance à la loi. Et c'est là où il y a des tentations, je trouve, de la part de la société civile, de lui être infidèle, en fait, aussi. Oui. Sur les vaccins, ça m'a vraiment marqué.
Je parlerai pas moins de défiance de la loi, mais d'un éclatement de la loi. Il y a une sorte de... Il faut le dire, si on prend une perspective historique un peu plus profonde, il y a une perte de centralité de la loi aujourd'hui qui n'a plus du tout la place centrale qu'elle avait du temps de la Révolution française, du temps où Rousseau parlait de la volonté générale qui, effectivement, devait régner sur la société. Donc elle perd cette centralité et d'autres normes viennent, en quelque sorte, suppléer à cette perte de souveraineté. Les normes européennes, les normes constitutionnelles et au niveau en bas, les usages, etc. Et je pense que ce qui se passe, c'est que la loi devient un moment du droit, un moment du droit, si vous voulez. Et du coup, autour de ce moment, il y a d'autres normes qui viennent s'intercaler. Par exemple, dans le cas que vous signalez, d'une expérimentation, imaginons effectivement cela, eh bien, la loi anticipe et dit on va expérimenter, mais à partir de là, il y aura des points de vue qui vont s'affronter, il y aura une jurisprudence qui va se créer, il y aura des indignations totales ou partielles qui vont être suscitées, il y aura des parlementaires qui vont peut-être se manifester. Il y aura donc un mouvement de société qui va produire de la norme autour de cette expérimentation et qui va peut-être annoncer une loi plus nourrie, en quelque sorte, d'un consensus que la loi initiale qui aurait été la volonté d'un parlementaire, par exemple.
Sauf donc que le temps qu'il aura fallu pour l'élaborer, de nouvelles nécessités d'expérimentation seront peut-être apparues.
Mais ça, on est dans un bouger permanent de la loi aujourd'hui qui n'est plus du tout gravé dans le marbre et qui dépend en quelque sorte de l'évolution des forces sociales et est en recherche permanente de stabilité. Moi, je vois quand je suis consulté par des parlementaires, ils sont un peu dans des domaines particuliers, en domaine de droit pénal par exemple, ils sont assez désemparés par l'évolution, la jurisprudence qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut nourrir leur réflexion pour les informer, pour qu'ils trouvent le point d'équilibre, un texte d'équilibre comme on dit, pour trouver la bonne formule.
Axel Tessandier.
Je sais pas, j'ai l'impression que l'époque accélère ça, comme si le changement, l'innovation était vraiment exponentielle sur un autre rythme. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Alors, c'est peut-être un cliché. Moi, j'ai fait que 4 ans de droit. J'ai pas été.
C'est toujours 4 ans de plus que moi, si ça peut vous rassurer.
Mais c'était il y a longtemps. Et en fait, je suis partie en faire en Angleterre. Je suis partie faire du droit des contrats. Et ce qui m'a marqué, quand j'étais en France, je passais ma vie dans mes codes. Ouais. Alors que quand j'étais en Angleterre, je passais ma vie à lire de la jurisprudence. Donc j'avais l'impression d'être collée au terrain, que j'avais l'impression d'être collée à l'époque,
c'est
en fait.
C'est la grande force.
Mais oui, mais c'est fou. C'est-à-dire, j'ai l'impression que nous, on est quand même sur des grands principes qui descendent, alors que eux vont du terrain, de la base, pour créer les grands principes. Est-ce que c'est une réalité ou c'est...
Ah, non, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. L'enseignement du droit est construit comme une pyramide de cours magistrales en haut, et les étudiants qui grattent en bas. Mais le système anglais est un système de l'interaction, de l'interactivité entre les étudiants et le professeur. Du coup, effectivement, la production du droit va être totalement différente.
Mais justement, Joseph Fadiringa, est-ce que vous considérez, vous, que la loi doit suivre, doit marquer d'aussi près les évolutions de la société et donc s'adapter pour ne pas bloquer ce qui relève par exemple de l'innovation quand on est sur le terrain économique, mais on voit bien que ce n'est pas uniquement le terrain économique qui est en jeu ce soir.
Non, mais il est certain que parfois la loi doit changer, mais Montesquieu disait il faut y toucher que d'une main tremblante. Hein. Et même Portalis, dans son discours préliminaire, soulignait déjà que les hommes ne se reposent jamais et que finalement le droit a toujours un temps de retard. Donc vous voyez, en fait, là encore, on est déjà en 1804, voire même avant pour Montesquieu. Et donc c'est en réalité des préoccupations qui sont déjà anciennes. Donc le propos n'est pas de dire qu'il faut être statique ou finalement découvrir les beautés du changement et de la nécessaire adaptation de la loi. Mais il y a la question du qui que j'ai souligné précédemment, qui est peut-être plus ambigu le prétend le législateur. La défiance ne vient pas de moi, hein, sur la question des PME et de vouloir répondre à un souci et de justifier sur les intérêts particuliers et spécifiques de certains acteurs, mais aussi du comment le processus législatif se fait. L'expérimentation, là, se fait en réalité par une inégalité devant la loi, alors certes limitée dans le temps, mais toujours est-il que l'on va finalement bouger le droit avant même que l'on soit véritablement, qu'on ait pris le temps véritablement de délibérer sur ces enjeux, sur les conséquences pour les autres acteurs, et qu'il faut justement répondre à la nécessité, à la rapidité de la vie économique, qu'on va donc modifier le droit le temps d'une expérimentation, mais le faisant au prix de l'égalité devant la loi, puisque évidemment il y a ceux qui vont bénéficier de l'expérimentation ou de la dérogation, tandis que les autres ne vont pas en bénéficier.
C'était justement un des thèmes sur lesquels je voulais vous faire rebondir les uns et les autres, cette rupture de l'égalité devant la loi. Axel Tessandier, c'est vrai que alors d'un point de vue de la logique économique, ça pose quand même un problème, c'est-à-dire quand on permet à certains de déroger à la loi, on leur donne un avantage compétitif, on fausse la libre concurrence. A priori, est-ce que ça ne pose pas un problème sur ce principe-là?
Juste avant, je vais rebondir, parce que là, on donne un peu l'impression que la loi, elle est toujours à la bourre, elle est toujours en retard par rapport à la société. Mais ce n'est pas vrai tout le temps, je veux dire, sur le mariage pour tous, sur la peine de mort, c'est un coup, la société est plus ou moins divisée, et là, d'un coup, le législateur y va, et dit, voilà, moi j'ai cette vision-là pour la société, je prends, donc moi je ne voudrais pas qu'on caricature non plus, en disant la loi est toujours en retard, et les institutions avancent toujours moins vite que les femmes et les hommes. Non, ce n'est pas vrai, tout d'un coup, moi je suis aussi fière de voir le législateur, quand il prend des risques sur la peine de mort, en 80, c'est la même chose, donc moi je ne voudrais pas donner l'impression non plus que la loi, elle est toujours en retard. Sur la rupture d'égalité. Vous parlez comme si c'était toujours une chance. Enfin, c'est aussi une prise de risque pour celui qui va prendre ce. C'est peut-être 2 ans pour rien. C'est peut-être 3 ans qui vont mettre sa société complètement à côté parce que finalement la dérogation va pas devenir quelque chose de permanent, ou ça ne va pas là où il va. Et puis moi je crois toujours que
mais si il est dans un secteur concurrentiel, les concurrents risquent de se dire attendez, mais moi comment ça se fait?
Oui,
regardez ce qui s'est passé par exemple avec Uber et avec les taxis parisiens.
Mais Uber se fera ubériser aussi, c'est-à-dire ubériser, c'est Uber qui appartient aux chauffeurs par exemple, donc ça on est toujours celui qui va se faire ubériser par quelqu'un, donc ça pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une prise de risque. Il y a quand même, quand vous expérimentez, quand vous innovez, mais 90% des gens vont vous dire « mais ça ne marchera jamais ». Et vous êtes celui qui dit « si, si, ça va marcher ». Donc c'est pas seulement « dis donc, il a de la chance hein, de pouvoir, par rapport à ses concurrents ». Non, non, il y a quelqu'un qui dit « vous pensez que ça marchera jamais, que je suis fou, qu'on prend un risque, bah je vais le prendre ». Donc ça y est aussi. Et puis la vérité, moi je pense toujours que la société, elle n'est pas changée par la société, elle est changée par un petit groupe qui pousse devant, qui pousse en avant et qui arrive à convaincre les autres de suivre derrière. Donc c'est... Moi, je le vois plutôt comme ça.
Ça me rappelle les premiers de cordée, ça, par exemple.
Non, ça n'a rien à voir.
Denis Salas, par rapport au fait que les dérogations vont à l'encontre du principe d'égalité. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou bien, et est-ce que, d'ailleurs, le principe d'égalité, c'est aussi un principe d'uniformité? Ou bien est-ce que l'un peut aller sans l'autre?
Je ne suis pas sûr de répondre à cette question. Je la prendrai autrement. Parce que ce qui me semble effectivement poser problème dans des sociétés comme les nôtres, qui sont pluralistes, qui sont hétérogènes, qui sont traversés de contradictions, le problème c'est que nous puissions trouver une référence commune, si vous voulez. Et la loi qui, dans l'idéal, pourrait incarner cette référence commune, ne fonctionne plus comme telle. Et du coup, cette référence, on la trouve dans ce que nous appelons les principes fondamentaux. Quand Robert Van Inter et Antoine Lyon-Caen avaient imaginé pas un code du travail, mais en tout cas des principes fondamentaux qui pourraient organiser des références communes vis-à-vis du monde dans le droit du travail, ils n'ont pas imaginé de réécrire le code du travail du tout. Ils ont imaginé au contraire d'écrire deux pages qui seraient les principes communs sur lesquels nous nous accordons tous en matière de respect du droit du travail, notamment d'égalité devant la loi. Et en renvoyant, si vous voulez, la loi aux décrets, aux usages, etc., aux tribunaux, le soin de les appliquer. Donc je trouve cette démarche-là est très intéressante parce qu'elle nous remet en cohérence. Elle remet de la cohérence là où nous avions un paysage assez, assez confus et du coup nous donne les repères communs qui nous manquaient tant et qui, là, redeviennent visibles du point de vue de la société, des parlementaires et des usagers.
Josepha Dieringa, est-ce que c'était la même philosophie qui a dicté votre travail au sein du groupe de recherche pour un autre droit du travail ?
Oui, non, je réagirais pas forcément par comparaison à l'ouvrage d'Antoine Lyon-Caen et Robert Berninter. Concernant le GRPACT, effectivement, nous, on considère que il y a des principes fondamentaux du droit du travail, mais que néanmoins, il revient à la loi de définir un certain nombre de règles qui organisent les relations de travail aussi bien individuelles que collectives. Et que ça ne revient ni au décret, ni à la négociation collective, et qu'il y a un socle qui doit être défini par la loi, aussi pour des raisons d'égalité entre les salariés et d'égalité entre les employeurs qui emploient ces salariés. Et là, on a, et donc d'avoir notamment aussi un droit du travail qui s'applique pour l'ensemble des travailleurs qui sont en situation subordonnée ou en situation de dépendance économique. Et donc là, quand je vois, par exemple, pour quand même citer un petit exemple très récent d'actualité, à savoir qu'il est désormais question d'élargir cette idée qu'il y a une responsabilité sociale des plateformes numériques, parce qu'elles sont plateformes numériques, on les autoriserait finalement à n'avoir qu'une charte sociale et n'être que responsable socialement, et donc d'échapper de cette manière à l'application du droit du travail et au risque de requalification des relations de travail en contrat de travail, il me semble que cela, non seulement nuit au droit des salariés et à la fonction protectrice du droit du travail, mais aussi créer, de mon point de vue, une différence de traitement tout à fait injustifiée entre une plateforme numérique qui emploie des chauffeurs ou des vélocyclistes en état de situation de dépendance économique par rapport au risque qui sera encouru par une entreprise du BTP qui recourrait à des auto-entrepreneurs.
Denis Salas et Axel Tessandier veulent réagir. Denis Salas.
Oui, moi je ne suis pas sûr de partager ce point de vue, parce que le recours généralisé, comme vous le préconisez, à la loi pour respecter effectivement les principes fondamentaux me semble de l'ordre d'une impossibilité matérielle. Si vous remettez effectivement toute la gestion, toute la législation en régulation directe du droit du travail, sans distinguer les principes fondamentaux, je termine, les principes fondamentaux des déclinaisons normatives différentes régulations par le règlement, par la loi, par les usages, etc., on aboutit à grossir démesurement le droit du travail et il devient illisible, si vous voulez, et
tout
impraticable.
Tout au contraire, monsieur, et si vous regarderez le code qu'on
question,
a proposé est
la question qui
plus
se pose, c'est
que
précisément
que...
de légiférer, mais comme le disait très bien Rousseau à l'époque, il le disait très, très, très joliment, légiférer, c'est écrire dans le cœur des hommes. Et pour écrire dans le cœur des hommes, il faut pouvoir que les hommes puissent intérioriser la loi. Comment peuvent-ils intérioriser la loi s'ils ne peuvent pas se la représenter, se la rendre lisible dans un texte qui est pour eux relativement cohérent et sans être indigeste.
Bon, le fait est que le nouveau code du travail qu'avait proposé justement le GRPACT est beaucoup plus mince que l'actuel
code
du travail.
Je n'ai pas vu.
Je peux en témoigner.
La négociation collective et laisse une grande part à la négociation collective. Donc il convient effectivement de rétablir. Il ne s'agit pas que de faire du droit du travail un droit légal, mais il y a toute une partie qui renforce le droit des salariés à la négociation collective, ce qu'il est encore aujourd'hui en droit positif.
Axel Tessandier, vous qui dirigez donc cette agence de réflexion autour de la révolution numérique, est-ce que ça fait partie quand même d'une demande forte de la part notamment de cet environnement assez foisonnant des start-up et du monde du numérique que de demander justement de pouvoir ou déroger à la loi ou expérimenter, en tout cas d'avoir peut-être davantage de souplesse dans la possibilité d'innover ?
pour oui, se enfin, développer. J'imagine que si Mounir Majoubi l'a présenté récemment...
Qui était après, chez nous ce matin d'ailleurs sur
France
Culture.
Après une grande consultation de l'écosystème, etc. Oui, c'est un peu ouvrir une porte ouverte. Hein. J'imagine que cet écosystème... C'est marrant, j'écoutais sur l'égalité devant la loi et ça. La loi, c'est la loi Grand Guillaume, je crois, non ? Enfin, la loi sur...
Sur les taxis.
Sur les taxis. Je trouve ça intéressant parce que du coup... Sous prétexte que voilà, il y avait pas d'égalité ou que certains étaient moins protégés que d'autres. Donc là, tout d'un coup, la loi se présente comme un progrès. Sauf que c'est 10 000 chauffeurs sur le carreau, VTC, parce qu'il y a moins de 5% de réussite à cet examen qui a été mis en place par cette loi. Est-ce que finalement, on a rééquilibré les choses? Est-ce que finalement, enfin, vous voyez ce que
c'est
je veux
dire?
C'est
pour ça qu'elle est expérimentale.
Du coup, la loi vient à la rescousse de gens qui sont moins protégés que d'autres dans un même secteur. Et puis finalement, on se rend compte, c'est le plus grand plan social avec 10 000 personnes qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain, qui ne peuvent plus passer l'examen et moins de 5% de réussite à l'examen. Alors, est-ce que d'un coup, c'est pas la loi qui, encore une fois, se colle pas au réel ou pense à la place des autres ou de la société, comme si on voulait protéger le citoyen lui-même, mais là, ça me...
Si aujourd'hui, Denis Salas, il y a ce besoin qui peut être ressenti de dérogation, d'expérimentation, est-ce que c'est parce que la loi est devenue tellement complexe qu'il est compliqué de s'y retrouver? Ou bien est-ce que ça serait plutôt le phénomène inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser que ce sont ces dérogations qui sont prévues dans les textes de loi qui finalement la rendent complexe et auquel cas elle aurait peut-être besoin d'être d'une manière un petit peu plus large, épurée, amincie?
Je pense que je ne raisonnerai pas sur le plan normatif, je raisonnerai sur le plan social. Ce sont les intérêts qui s'affrontent dans la société, qui sont de plus en plus violents, complexes, enchevêtrés et conflictuels. La société est très conflictuelle. L'exemple que vous donnez est assez frappant. Du coup,
est-ce qu'on pourrait voir une responsabilité de la complexité de la loi? C'est-à-dire que la complexité permet aussi cette conflictualité. Peut-être que si c'était plus simple et plus clair,
elle est confrontée à cette conflictualité sociale extrêmement aiguë et elle doit effectivement trouver des régulations, mais elle ne peut pas trouver une régulation rigide qui stabiliserait magiquement cette conflictualité sociale.
Oui, mais si elle cherche à répondre à chaque revendication, elle en devient forcément très complexe.
Elle devient dialectique aussi. Elle se met elle est systémique, si vous voulez. Elle se met en capacité de réagir, de s'adapter pour trouver la régulation qui lui paraît la meilleure dans une situation très conflictuelle dont elle hérite. Et le Parlement, si on voit comment travaille le Parlement, c'est des commissions, c'est des relations individuelles ou collectives avec des organisations syndicales, avec des associations. Il prend le pouls de la société. Le législateur prend le pouls de la société, et prend le pouls des conflits de plus en plus aigus et tente d'abord, avant le vote de la loi, de trouver les réponses pragmatiques tout en respectant les principes fondamentaux qui lui permettent d'apaiser la société dans cette conflictualité de plus en plus forte qui l'anime.
Le travail du législateur est forcément extrêmement compliqué, c'est-à-dire de répondre à l'ensemble des revendications qui peuvent parfois être contradictoires et de les faire entrer dans la loi pour que celle-ci puisse répondre à chacune d'entre elles, accepter son biais.
Ah oui, mais oui, c'est sûr que le métier du législateur est pas facile. Encore une fois, qu'est-ce que l'intérêt général? Enfin, on en parlait. Et puis encore une fois, moi, je vous aimais pas le mot défiance, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose là-dessus sur qui fait la loi. Pour qui? Mais c'est marrant parce que vous parliez de la complexité qui favorise le conflit, mais j'habitais 6 ans aux États-Unis et à une époque, je leur explique qu'on a un secrétaire d'État ou un ministre numérique. Et ils me disent, nous, on n'en a pas.
Ça marche.
Ah bon, elle me dit, non, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Et puis tout le monde rit autour de la table. Alors je me suis dit, est-ce que c'est nous qui mettons finalement peut-être trop de lois? Mais après, c'est un peu la loi de la jungle quand même. C'est, je me dis, mais eux riaient qu'on ait finalement un législateur sur le numérique, enfin quelqu'un qui soit destiné qu'à ça, qu'à faire des lois. Et je me dis, c'est amusant. Alors, eux, comment ça se passe? Mais moi, je crois quand même que c'est nécessaire. Enfin, est-ce que, je ne sais pas s'il y a moins de conflits, mais c'est un peu la loi de la jungle. S'il n'y a pas le législateur à un moment ou à un autre pour arbitrer aussi, est-ce que c'est un métier difficile? Certainement. Pas seulement parce qu'ils sont fatigués en juin comme tout le monde, mais.
Voilà, et comme à chaque fin d'année, quand on regarde finalement ce qui se disait sous les précédents quinquennats, c'était à peu près la même chose.
Non, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est en forme au mois de juin? dire on est tous quand même au bout du rouleau.
Non, mais
quand vous avez commencé votre intro, votre introduction, oui, ils sont fatigués. Je dis oui, enfin comme beaucoup d'entre nous, c'est la fin de l'année juste avant les vacances, quoi.
Bon, justement, la perspective des vacances, moi, ça me redonne un petit coup d'élan. Josepha Dieringer, sur cette question du lien, on va dire, entre la complexité de la loi et les dérogations et les expérimentations, est-ce que c'est pour vous parce que la loi est complexe qu'il y a peut-être cette revendication d'obtenir des dérogations, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de dérogations qui sont prévues dans une loi de plus en plus complexe que celle-ci est de plus en plus fournie, justement? Qui de la poule alors, de l'œuf?
Oui, c'est ça. Bon, on en revient, et c'est comme ça que la boucle sera bouclée. On en revient à l'idée que c'est de cette idée que on n'est plus sur l'effectivité du droit, mais de l'efficacité économique du droit, et donc de chercher à adapter le droit et dans le temps et aux situations particulières, d'où effectivement la multiplication des dérogations, des cas particuliers, des exceptions, des exceptions. Et donc tout ceci effectivement fait un droit complexe. Mais il faut dans le même temps souligner qu'il y a un paradoxe de constater une prétention à la simplification du droit et que ceux qui prétendent simplifier le droit sont ceux-là même qui ont mis des décennies à le complexifier et à augmenter les dérogations, les habilitations à négocier et aux branches et aux groupes et aux intergroupes pour parler que du droit du travail. Mais on a vraiment... un sentiment que l'affichage de vouloir simplifier le droit du travail a dissimulé en réalité tout l'inverse. Hein. Et donc effectivement, le droit est plus complexe. Il importe du coup qu'il y ait des juristes pour l'éclairer, l'expliquer et permettre qu'il y ait un meilleur accès au droit. Et il y a une complexité certainement qui est irréductible à la complexité de la société, mais néanmoins, je pense que cette nouvelle représentation du droit et de la loi est allée de pair avec une complexité qui, je pense, est nuisible, et notamment pour ceux qui sont les plus faibles et les plus vulnérables dans la société.
Je crois que c'est vous tout à l'heure, Josepha Dieringer, qui citiez Montesquieu, auteur incontournable, hein, quand on parle de la place de la loi, de l'esprit des lois, Montesquieu qui disait aussi ceci, il disait beaucoup de choses évidemment. Elles doivent être simples, les lois, et ne doivent point être subtiles. Elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille. Est-ce qu'il faudrait revenir à une logique de père de famille, Denis Salas, pour penser la loi aujourd'hui?
C'est une autre époque. Moi, je pense qu'on n'a pas, besoin de se lancer dans une entreprise de simplification. Je pense qu'il est beaucoup plus urgent et important de remonter vers la généralité, vers de penser la référence commune, ce qui fait que nous tenons à des valeurs qui nous unissent, qui nous rassemblent en quelque sorte, au-delà de la conflictualité qui nous divise, si vous voulez. Et là, effectivement, l'appel à une temporalité longue du droit, et non pas une temporalité courte dans l'urgence, dans la dérogation permanente, mais une temporalité qui surplomberait en quelque sorte cette agitation permanente qui traverse les lois, me semble très importante. C'est ce que fait aujourd'hui le juge constitutionnel, c'est ce que fait aussi les autres organes judiciaires, de rythmer en quelque sorte l'évolution du droit qui est agitée dans cette temporalité courte par une temporalité longue qui permettrait effectivement de surplomber, de dominer cette violence de la société qui déchire les individus les uns par rapport aux autres. Et là, nous manquons précisément de cette force de surplomb du droit qui permettrait de remettre en cohérence l'ensemble à travers une vision commune où nous pourrions nous reconnaître, si vous voulez.
Oui, la complexité de la loi, c'est une réalité... Moi, parfois, comme je suis dans une démocratie représentative, je vais faire confiance aux législateurs, parce qu'on parle beaucoup de la complexité du comment de l'article, de la loi, de comment elle est rédigée. Mais si moi, j'ai le sens, la vision, le pourquoi de la loi, je vais faire confiance, parce que je crois à ma démocratie représentative. Ça. Et donc, si je n'ai pas le pourquoi... Vous voyez, par exemple, sur les 80 km/h, là, la tentation d'infidélité est dingue. Comme si on n'avait pas réussi à expliquer que ça sauvait des vies.
Ça n'a pas été suffisamment dit.
Exactement. Donc, on est parti sur... le détail,
l'impérium,
jamais sur le pourquoi et la vision. Et là, je suis d'accord avec vous, il faut quelque chose qui surplombe la loi. Et là, dans ce cas-là, la complexité, je trouve qu'elle est gérable, elle est acceptable dans une démocratie représentative.
Et ben voilà, vous terminez sur un point d'accord. On n'a pas entendu Denis Salas le dire, mais je dis à sa place. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Axel Tessandier, Denis Salas et Joseph Faderinger. Je profite également pour remercier nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes. Merci également à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulster et Prune Saez. Une émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean-Guy Lermège.